il se reverrait. D'ici à peu, il y aurait peut-être un grand changement dans sa vie. 2 heures après son retour, la ville était en révolution. On disait que M. Frédéric allait épouser Mme d'Ambreuse. Enfin, les 3 demoiselles Auger, n'y tenant plus, se transportèrent chez Mme Moreau, qui confirma cette nouvelle avec orgueil. Le père Roquen fut malade, Louise s'enferma, le bruit courut même qu'elle était folle. Cependant, Frédéric ne pouvait cacher sa tristesse. Mme d'Ambreuse, pour l'en distraire sans doute, redoublait d'attention. Toutes les après-midi, elle le promenait dans sa voiture, et une fois qu'il passait sur la place de la Bourse, elle eut l'idée d'entrer dans l'hôtel des commissaires-priseurs par amusement. C'était le 1er décembre, jour même où devait se faire la vente de Mme Arnoux. Il se rappela la date et manifesta sa répugnance en déclarant ce lieu intolérable à cause de la foule et du bruit. Elle désirait y jeter un coup d'œil seulement. Le coupé s'arrêta, il fallait bien la suivre. On voyait dans la cour des lavabos sans cuvette, des bois de fauteuils, de vieux paniers, des tessons de porcelaine, des bouteilles vides, des matelas. Et des hommes en blouse ou en sale redingote, tout gris de poussière, la figure ignoble, quelques-uns avec des sacs de toile sur l'épaule, causaient par groupes distincts où se hêlaient tumultueusement. Frédéric objecta les inconvénients d'aller plus loin. « Ah, bah !» Et ils montèrent l'escalier. Dans la première salle, à droite, des messieurs, un catalogue à la main, examinaient des tableaux. Dans une autre, on vendait une collection d'armes chinoises. Madame d'Ambreuse voulut descendre. Elle regardait les numéros au-dessus des portes et elle le mena jusqu'à l'extrémité du corridor vers une pièce encombrée de monde. Il reconnut immédiatement les 2 étagères de l'art industriel, sa table à ouvrage, tous ses meubles. Entassés au fond, par rang de taille, ils formaient un large talus depuis le plancher jusqu'aux fenêtres. Et sur les autres côtés de l'appartement, les tapis et les rideaux pendaient droits le long des murs. Il y avait en dessous des gradins occupés par 2 vieux bonshommes qui y sommeillaient. À gauche s'élevait une espèce de comptoir où le commissaire-priseur, en cravate blanche, brandissait légèrement un petit marteau. Un jeune homme, près de lui, écrivait, et plus bas, debout, un robuste gaillard, tenant du commis-voyageur et du marchand de contremarque, criait les meubles à vendre. 3 garçons les apportaient sur une table que bordaient, assis en ligne, des brocanteurs et des revendeuses. La foule circulait derrière eux. Quand Frédéric entra, les jupons, les fichus, les mouchoirs et jusqu'aux chemises étaient passés de main en main, retournés. Quelquefois, on les jetait de loin, et des blancheurs traversaient l'air tout à coup. Ensuite, on vendit ses robes, puis un de ses chapeaux, dont la plume cassée retombait, puis ses fourrures, puis 3 paires de bottines, et le partage de ses reliques, où il retrouvait confusément les formes de ses membres, lui semblait une atrocité, comme s'il avait vu des corbeaux déchiquetant son cadavre. L'atmosphère de la salle, toute chargée d'haleine, l'écœurait. Madame d'Ambreuse lui offrit son flacon. Elle se divertissait beaucoup, disait-elle. On exhiba les meubles de la chambre à coucher. Maître Berthelmot annonçait un prix. Le crieur, tout de suite, le répétait plus fort. Et les 3 commissaires attendaient tranquillement le coup de marteau, puis emportaient l'objet dans une pièce contiguë. Ainsi disparurent, les uns après les autres, le grand tapis bleu semé de camélias, que ses pieds mignons frôlaient en venant vers lui. La petite bergère de tapisserie où il s'asseyait toujours en face d'elle quand ils étaient seuls. Les 2 écrans de la cheminée, dont l'ivoire était rendu plus doux par le contact de ses mains. Une pelote de velours, encore hérissée d'épingles. C'était comme des parties de son cœur qui s'en allaient avec ces choses. Et la monotonie des mêmes voix, des mêmes gestes, l'engourdissait de fatigue, lui causait une torpeur funèbre, une dissolution. Un craquement de soie se fit à son oreille. Rosanette le touchait. Elle avait eu connaissance de cette vente par Frédéric lui-même. Son chagrin passé, l'idée d'en tirer profit lui était venue. Elle arrivait pour le voir, en gilet de satin blanc à boutons de perles, avec une robe à falbala, étroitement gantée, l'air vainqueur. Il pâlit de colère. Elle regardait la femme qui l'accompagnait. Madame d'Ambreuse l'avait reconnue. Et pendant 1 minute, elles se considérèrent de haut en bas, scrupuleusement, afin de découvrir le défaut, la tare, l'une enviant peut-être la jeunesse de l'autre, et celle-ci, dépitée par l'extrême bon ton, la simplicité aristocratique de sa rivale. Enfin, Madame d'Ambreuse détourna la tête, avec un sourire d'une insolence inexprimable. Le crieur avait ouvert un piano, son piano. Tout en restant debout, il fit une gamme de la main droite et annonça l'instrument pour 1200 francs, puis se rabattait à 1000, à 800, à 700. Madame d'Ambreuse, d'un ton folâtre, se moquait du sabot. On posa devant les brocanteurs un petit coffret avec des médaillons, des angles et des fermoirs d'argent, le même qu'il avait vu au premier dîner de la rue de Choiseul, qui, ensuite, avait été chez Rosanette, était revenu chez Madame Arnoux. Souvent, pendant leur conversation, ses yeux le rencontraient. Il était lié à ses souvenirs les plus chers et son âme se fondait d'attendrissement. Quand Madame d'Ambreuse dit tout à coup « Tiens, je vais l'acheter. » « Mais ce n'est pas curieux, » reprit-il. Elle le trouvait au contraire fort joli, et le crieur en prônait la délicatesse. « Un bijou de la Renaissance, 800 francs, messieurs. En argent presque tout entier. Avec un peu de blanc d'Espagne, ça brillera. » Et comme elle se poussait dans la foule, « Quelle singulière idée, » dit Frédéric. « Cela vous fâche ?»« Non, mais que peut-on faire de ce bibelot ? Qui sait, y mettre des lettres d'amour, peut-être ?» Elle eut un regard qui rendait l'allusion fort claire. Raison de plus pour ne pas dépouiller les morts de leurs secrets. Je ne la croyais pas si morte. Elle ajoutait distinctement. 880 francs. Ce que vous faites n'est pas bien, murmura Frédéric. Elle riait. Mais, cher ami, c'est la première grâce que je vous demande. Mais vous ne serez pas un mari aimable, savez-vous ? Quelqu'un venait de lancer une surenchère. Elle leva la main. 900 francs. 900 francs, répéta Maître Berthelmot. 910, 15, 20, 30, glapissait le crieur, tout en parcourant du regard l'assistance avec des hochements de tête saccadés. Prouvez-moi que ma femme est raisonnable, dit Frédéric. Il l'entraîna doucement vers la porte. Le commissaire-priseur continuait. Allons, allons, messieurs, 930, y a-t-il marchand en 930? Madame d'Ambreuse, qui était arrivée sur le seuil, s'arrêta et d'une voix haute, « 1000 francs !» Il y eut un frisson dans le public, un silence. « 1000 francs, messieurs, 1000 francs, personne ne dit rien, bien vu, 1000 francs, adjugé !» Le marteau d'ivoire s'abattit. Elle fit passer sa carte, on lui envoyait le coffret, elle le plongea dans son manchon. Frédéric sentit un grand froid lui traverser le cœur. Madame d'Ambreuse n'avait pas quitté son bras, et elle n'osa le regarder en face, jusque dans la rue où l'attendait sa voiture. Elle s'y jeta comme un voleur qui s'échappe, et quand elle fut assise, se retourna vers Frédéric, il avait son chapeau à la main.